On présente la cinquième note du collectif ACDC durant cette campagne présidentielle, et évidemment la dernière de la campagne. L'actualité autour du chômage est assez intense en ce moment. Vous savez qu'il y a des associations de chômeurs qui sont perchées sur le toit de l'UNEDIC en ce moment pour demander le retrait du protocole.
La mesure 8 et 10, concernant les intermittents. Donc ils veulent faire avancer la question de l'intermittence et aussi parler en règle générale de la pression et des radiations faites au chômage.
Demain le personnel de la DARES fait grève pour s'opposer à la publication du chiffre du chômage de mars qui est prévu théoriquement vendredi, en pratique probablement plutôt demain. Les syndicats de la NPE, de l'INSEE et du ministère de l'Emploi, ainsi que le collectif ACDC organise le 29, et les associations de chômeurs organisent le 29 mai des états généraux des chiffres du chômage et de la précarité, où vont être mis en débat des propositions pour sortir par le haut de cette controverse autour des chiffres du chômage et pour déboucher sur un système d'observation statistique fiable et exhaustif qui permettra de rendre compte de la diversité des situations de chômage, de précarité, d'insécurité sur le marché du travail. Alors c'est un peu la démarche depuis le début, la démarche du collectif ACDC, c'est d'essayer, en partant de la question du chiffre du chômage, d'essayer de poser la question plus générale la mesure de l'insécurité sur le marché du travail et de la nécessité de disposer de plusieurs indicateurs réguliers et fiables pour suivre l'évolution de la situation sociale dans ce pays. Donc aujourd'hui, on vous présente un indicateur qui s'appelle le BIP 40, donc qui est le baromètre des inégalités de la pauvreté, qui est un indicateur qui a été créé par le réseau d'alerte sur les inégalités en 2002. D'ailleurs, la première publication de l'indicateur a eu lieu en avril 2002 dans un dossier spécial du mensuel Alternative économique. Et depuis chaque année, donc le RAI, le réseau d'alerte sur les inégalités, publie une actualisation de cet indicateur. Donc aujourd'hui, Pierre Concialdi va vous présenter la note numéro 5, où on présente donc le résultat de l'actualisation de cet indicateur, de ce baromètre des inégalités et de la pauvreté, la plus récente possible, c'est-à-dire à l'année 2005. La démarche que nous poursuivons toujours, c'est la démarche de montrer, à l'aide d'indicateurs statistiques diversifiés. La dernière fois, on avait mis en avant la question de l'emploi inadéquat. Cette fois-ci, c'est en élargissant encore à la question plus générale de la précarité et des inégalités dans notre société. Nous cherchons toujours à poser la question de comment la société regarde ces réalités et comment elle ne veut pas les regarder, puisque le BIP 40 a été créé suite à une controverse avec l'INSEE. Vous verrez dans la fiche numéro 2 qui vous a été du document qui vous a été distribué, un bref historique de l'initiative du BIP 40. Les statistiques officielles publiées par l'INSEE, notamment le taux de pauvreté, indiquent une stabilité, voire une baisse, sur les 20 dernières années, de la proportion de pauvres en France. Donc c'est face à cette curiosité statistique qui contredit toutes les perceptions et toutes les représentations des observateurs de la société française que s'est constituée cette initiative, le BIP 40, qui cherche à rendre compte de la multidimensionnalité des problèmes de précarité et de pauvreté et d'inégalité dans la société française. Voilà, donc je passe la parole à Pierre Concialdi.
Je pense que vous avez tous en main un dossier. Enfin, je vais faire référence juste aux deux graphiques. Donc, si vous ne les avez pas, vous pourrez les avoir évidemment sur le site du collectif où ces notes vont être mises en ligne. Donc, comme Thomas l'a dit, aujourd'hui, c'est autour du BIP 40, donc du baromètre des inégalités et de la pauvreté, qu'on fait cette conférence de presse. D'une part, pour insister sur le fait que, évidemment, le chômage et la précarité, ça pèse sur les inégalités sociales, mais que ces inégalités, elles deviennent de plus en plus multidimensionnelles. Et alors, pour vous donner une idée très rapide de ce que c'est que le BIP 40, c'est un indicateur composite qui rassemble plus de 60 séries statistiques. Donc, je ne vais pas rentrer, évidemment, dans le détail de ces 60 séries, mais ces séries, elles couvrent 6 grands domaines des inégalités. L'emploi et le travail, les salaires et les inégalités de revenus, la santé, l'éducation, le logement et la justice. Alors, le premier constat qu'on peut faire, puisque c'est l'intérêt quand même de cet indicateur, c'est de voir sur la période la plus récente, et donc le BIP 40, à la différence d'ailleurs des statistiques officielles, lui va jusqu'à l'année 2005, puisqu'aujourd'hui, si on se réfère aux statistiques officielles, elles s'arrêtent en 2004. Premier constat, c'est que les inégalités globalement sont reparties à la hausse après 2002, de façon assez sensible, surtout en 2003, mais la hausse s'est poursuivie en 2004 et aussi en 2005. Aujourd'hui, on a atteint, d'après l'indicateur du BIP 40, le niveau le plus élevé des inégalités sociales dans notre pays depuis 25 ans. Donc cette baisse, elle n'a pas été continue ni régulière sur toute la période, c'est comme vous pouvez le constater sur le graphique. Il y a eu des moments de pause, même de diminution. Malgré tout, il y a une tendance très très nette à l'augmentation des inégalités. Et évidemment, ce diagnostic, il contredit largement celui qu'on peut avoir à partir des statistiques officielles, que ce soit en matière d'inégalité de revenus ou de pauvreté, puisque grosso modo, les statistiques officielles nous disent que il ne s'est pas passé grand-chose en matière de pauvreté ni d'inégalité depuis 25 ans, et même, selon certains indicateurs, ça aurait plutôt baissé. Alors, dans l'évolution du BIP 40, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs facteurs d'inégalité, qui ont pesé sur cette évolution. Le chômage et l'emploi, de même que les inégalités en matière de revenus et la pauvreté, ça pèse dans le BIP 40 pour 25% chacun. C'est-à-dire que les deux composantes majeures du BIP 40, ce sont les inégalités en matière de chômage et d'emploi d'une part, pour 25%, les inégalités en matière de revenus et la pauvreté pour 25%. Et les autres domaines qui sont inclus dans le BIP 40, donc la santé, l'éducation, le logement, la justice, représente l'autre moitié, c'est-à-dire qu'il représente 12,5%, il pèse pour 12,5% en 2040. Donc, compte tenu de cette pondération, qui est à la fois le résultat d'un choix raisonné et aussi le résultat de la disponibilité des statistiques, donc vous avez une fiche méthodologique qui vous présente plus en détail la méthode de construction des 2040 et les principaux choix méthodologiques, on pourrait s'attendre à ce que ce qui se passe en matière de chômage et d'emploi ait une incidence sinon majeure, du moins sensible, presque déterminante sur l'évolution du BIP 40. Si on regarde les chiffres, disons, en distinguant deux périodes, alors on pourrait le faire sur une période plus longue, mais ça compliquerait un peu l'analyse. Là, on a centré le commentaire sur ce qui s'est passé entre 1997 et 2002 et ce qui s'est passé après 2002. C'est ce que vous avez dans le second graphique, c'est-à-dire la contribution des différents indicateurs à la variation du BIP 40 depuis 1997, on constate un changement assez net dans la dynamique, disons, de formation et de reproduction des inégalités sociales. Entre 1997 et 2002, le taux de chômage BIT a fortement baissé. Il était de 12,5% en 1997, il est passé à 8,8%. Et cette seule baisse permet d'expliquer l'intégralité, finalement, de la baisse du BIP 40. Alors l'indicateur de chômage global, il baisse encore davantage parce qu'un certain nombre d'inégalités associées au chômage, inégalités entre sexes, entre catégories sociales, selon l'âge, on a aussi des indicateurs sur le pourcentage de chômeurs indemnisés, etc. Ces autres inégalités ont diminué également un petit peu sur la période, ce qui fait que si on avait qu'un indicateur, pour le dire autrement, si le BIP 40 ne retraduisait que ce qui se passe en matière de chômage, il aura encore davantage baissé. Donc il y a eu une contribution tout à fait majeure de ce qui s'est passé en matière d'emploi et de chômage sur cette période, sur l'évolution du BIP 40, et cette contribution a été contrebalancée assez fortement par la montée des inégalités en matière de logement. C'est ce que vous voyez de façon assez significative sur le graphique. Et donc ce qu'il y a eu pour effet de ralentir la progression, enfin la diminution de la baisse observée sur cette période 1987-2002. Si on regarde maintenant ce qui s'est passé après 2002, le chômage a toujours contribué à la... Alors cette fois-ci, on est dans une période de hausse du BIP 40, hein, hausse non négligeable et très significative. En matière de chômage, si on prend les indicateurs usuels, le taux de chômage BIT, eh bien, il a légèrement augmenté. Il est passé de 8,8 à 9,8, 8,8 donc en 2002 à 9,8 en 2005. Et comme vous le savez, d'après l'enquête emploi, le taux de chômage serait resté stable en 2006. Alors j'en profite pour dire que les séries du BIP 40 s'arrêtent en 2005 parce que malheureusement la disponibilité statistique est souvent très réduite sur l'année la plus récente. Donc nous on essaye d'aller au plus juste. Alors sur certains indicateurs comme le chômage, on aurait des indications pour 2006, mais ce n'est pas le cas pour une très large partie des indicateurs. Donc c'est pour ça que le BIP 40 actualisé aujourd'hui s'arrête en 2005. Donc on a une légère hausse du chômage qui expliquerait un peu moins de 20% de la croissance du BIP 40. Et ça s'est accompagné d'un creusement des inégalités associées au chômage. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les inégalités entre catégories sociales, entre hommes et femmes, selon l'âge, la dégradation de l'indemnisation du chômage dont on a déjà parlé dans une précédente conférence de presse, ça a contribué à rajouter encore davantage au creusement des inégalités en matière de chômage. Et globalement, les indicateurs qui sont liés au chômage dans le BIP 40 ont contribué pour environ un quart à la hausse observée entre 2002 et 2005. Donc un quart, c'est pas négligeable, mais c'est très différent de ce qu'on avait observé, comme je viens de vous le dire, entre 1987 et 2002. Donc il y a d'autres formes d'inégalités qui se sont développées, notamment en ce qui concerne l'emploi, la multiplication des emplois précaires, CDD, intérim, sous-emploi, qui ont recommencé, dont la part a recommencé à croître en 2003 et qui se maintiennent sur les dernières années à un niveau élevé. En matière de conditions de travail, les maladies professionnelles, les accidents de travail qui sont de plus en plus graves, là on a des indicateurs qui virent vraiment au rouge et qui atteignent leur niveau record en 2005 sur l'ensemble de la période qu'on étudie, c'est-à-dire quand même 25 années, ce qui est le signe de ce qu'on soulignait aussi dans la dernière note du collectif du développement de ce qu'on a appelé l'emploi insoutenable, c'est-à-dire l'emploi qui s'accompagne de mauvaises conditions de travail qui sont nuisibles à la santé. En résumé, la précarité de l'emploi, le développement de la précarité de l'emploi, la dégradation des conditions de travail, ça explique environ 15% de la hausse du BIP 40 depuis 2002. Donc ça a apporté, la précarité pèse de plus en plus dans le creusement des inégalités sociales dans notre pays. Alors chômage, précarité, il ne faut pas être grand clair pour voir que ça pèse également sur les conditions de rémunération, non seulement sur les conditions de travail, mais également sur les conditions de rémunération des salariés. Donc on a aussi dans le BIP 40 un certain nombre d'indicateurs qui retracent ces phénomènes. J'en cite quelques-uns. Par exemple, la part des salaires dans la valeur ajoutée depuis 2002 se maintient à un niveau historiquement très faible. Elle n'a pas baissé davantage, en schématisant, que la baisse qu'on avait pu observer sur certaines périodes, mais elle se maintient à un niveau très très faible, ce qui contribue à maintenir le BIP 40 en revanche à un niveau élevé. Autre indicateur qui était aussi assez significatif, c'est la part des revenus financiers dans le total des revenus des ménages, qui se situe toujours à un niveau élevé. Pour vous donner un ordre de grandeur, je crois que c'est assez parlant, la part de ces revenus de la propriété, pas uniquement financiers d'ailleurs, représente presque l'équivalent de la moitié des salaires nets perçus aujourd'hui par les ménages. Hein, c'est-à-dire que vous avez une masse de salaires nets qui est de 100, et les ménages, enfin certains d'entre eux en tout cas, perçoivent parallèlement quelque chose qui est de l'ordre de 50, ce qui est tout à fait considérable. Hein, c'était environ un quart il y a 25 ans, donc vous voyez, il y a eu une progression de la part des revenus de la propriété dans les revenus des ménages, ce qui signifie que la sécurité, en termes de revenus, de conditions de vie, elle passe de plus en plus aujourd'hui par la propriété. Alors évidemment, pour les ménages qui ne sont pas propriétaires et qui ne vivent que des revenus de leur travail, ça se traduit par des conditions de vie et une situation financière dégradée. Alors dans le BIP 40, on a quelques indicateurs sur le nombre de ménages surendettés qui reste très élevé. Autre indicateur qui a battu aussi un record en 2005, c'est le pourcentage d'incidents de crédit qui a vraiment bondi sur la dernière année. La conséquence de cette pression du chômage, de la précarité sur les revenus, la baisse de l'indemnisation du chômage, fait qu'un nombre croissant de personnes, de salariés et de ménages se retrouvent relégués vers les minima sociaux. Donc là aussi, dans le VIP 40, il y a un certain nombre d'indicateurs. J'en cite un. Le pourcentage de la population, c'est-à-dire pas uniquement les allocataires, mais les personnes qui vivent dans les ménages, qui dépendent finalement des minima sociaux pour vivre, a atteint un niveau record en 2005, là encore, 10,2% de la population, ce qui représente 6,4 millions de personnes. Donc on voit bien que la pauvreté s'est développée, enfin si on prend cet indicateur. Et ce qui est encore plus significatif, c'est de regarder le niveau du seuil de pauvreté, c'est-à-dire le niveau de la garantie de revenus procurée par ces minima sociaux. Et là, on est à un niveau qui est le plus faible depuis 25 ans. Un autre chiffre pour illustrer ce phénomène, le revenu moyen des ménages, c'est-à-dire ce que perçoivent en moyenne chaque ménage, ça représentait en 2005 3,6 fois le revenu garanti moyen par ces minima sociaux, et c'était 2,7 en 1984. Donc en contrepartie, les minima sociaux représentent une fraction toujours plus réduite, si vous voulez, du revenu moyen des ménages. Autrement dit, en résumé, il y a de plus en plus de pauvres, et ces pauvres sont de plus en plus pauvres. Globalement, quelle est la contribution de la pauvreté à l'évolution du BIP 40 entre 2002 et 2005? C'est du même ordre que celle du chômage, c'est-à-dire environ 20%. Donc là, on voit bien que les inégalités se diversifient, se multiplient et se traduisent par des difficultés dans les conditions de vie des ménages. Alors tout ça a aussi une incidence. Je dis tout à l'heure que depuis une dizaine d'années, l'évolution du BIP 40 était fortement tiré en quelque sorte par ce qui s'est passé en matière de logement. Bon, évidemment, avec les difficultés d'emploi, la multiplication des bas salaires, le développement de la précarité, l'accès à l'emploi devient quelque chose de plus en plus difficile. Ça se conjugue au fait, et là il y a des indicateurs aussi dans le BIP 40, qu'il y a eu depuis quelques années une flambée des loyers qui a été très supérieure à celle de l'inflation, une augmentation aussi du nombre d'expulsion qui a atteint aussi en 2005 un niveau record dans notre pays. Et donc là, on voit bien qu'il y a des difficultés de logement qui sont tout à fait liées aux difficultés d'emploi. Et, d'une certaine façon, on pourrait dire que les salariés sont pris en tenaille. D'un côté, on a des bailleurs qui, compte tenu justement de la sécurité sociale croissante, exigent des garanties sans cesse plus fortes. Il faut avoir un emploi stable, il faut avoir des revenus stables et des revenus élevés qui représentent souvent 3 voire 4 fois le niveau du loyer. Et de l'autre côté, on a des employeurs qui ne proposent que des emplois à bas salaire, intérimaires, sans réelle garantie ni sécurité. C'est ce qu'on a montré notamment dans plusieurs notes du collectif. Pour conclure, donc, qu'est-ce qu'on... Alors, il y a d'autres indicateurs que sur le chômage, le travail, sur les inégalités de revenus, la pauvreté et le logement dans le BIP 40. Ça concerne, comme je vous l'ai dit en introduction, la santé, l'éducation, la justice. Sur ces différents domaines, en termes de variation, hein, je ne parle pas du niveau des inégalités, en termes de variation depuis 2002, on n'observe pas de changement très significatif. Ça ne signifie pas que la situation ne soit pas préoccupante dans un certain nombre de domaines, c'est-à-dire qu'il y a des indicateurs qui sont à un niveau très très élevé et très préoccupant. Quelques exemples. Dans le domaine de la justice, la situation reste très dégradée. Je rappelle que, comme on l'avait montré l'année dernière, le taux d'incarcération avait fait un bond spectaculaire en 2004. Il s'est maintenu en 2005 au même niveau, donc on a un niveau tout à fait record. Pour les étrangers, la situation demeure également précaire. Le taux de reconnaissance du statut de réfugié est resté à un niveau très faible, de l'ordre de 17%, qui est le niveau le plus bas observé depuis 20 années. Je vais très vite sur les autres domaines. En matière d'éducation, l'éducation, c'était un domaine qui avait contribué sur les 20, depuis le début des années 80, à la baisse du BIP 40. C'est-à-dire qu'on a observé une baisse des inégalités en matière d'éducation. Le changement le plus notable depuis le milieu des années 90, c'est que ce mouvement a été stoppé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de baisse, la démocratisation de l'école s'est interrompue et les inégalités en matière de réussite scolaire ne se sont plus réduites. Et enfin, bon, en matière de santé, même si sur la période récente, On n'observe pas de variation, encore une fois, significative. On peut rappeler que bon, la réforme de l'assurance maladie va mettre à la charge des ménages une part croissante des dépenses de santé. On peut rappeler aussi que, selon les statistiques les plus récentes de l'INSEE, l'espérance de vie, l'écart d'espérance de vie entre ouvriers et cadres a continué à augmenter et se situe dans notre pays à un niveau d'ailleurs qui est assez sensiblement, enfin qui est très élevé par rapport à certains autres pays. En conclusion, donc ce qu'on a essayé de mettre en évidence à travers cette note, c'est surtout le fait que, d'une part, le chômage, bien sûr, mais aussi le développement de la précarité pesait de plus en plus dans les inégalités sociales, et surtout que ces inégalités sociales, elles étaient de plus en plus multidimensionnelles. Donc la conclusion qu'on en tire, c'est qu'en matière de chômage, comme en matière d'insécurité sociale, et bien là aussi, pour reprendre le titre du collectif, d'autres chiffres sont nécessaires pour rendre compte des inégalités et aussi, évidemment, engager les politiques les plus aptes à les combattre. Voilà, alors vous trouverez par ailleurs dans le petit dossier que vous avez eu, comme je l'ai dit, donc une petite fiche sur la méthodologie du BIP 40, une autre fiche qui rappelle, comme Thomas le signalait en introduction, la controverse qui avait été lancée par le réseau d'alerte sur les inégalités en 2004 sur la mesure de la pauvreté. Et puis enfin, quelques indications sur l'évolution récente du pouvoir d'achat des ménages et les dépenses contraintes, notamment en matière de loyer et de logement, et les conséquences que ça a sur le niveau de vie des ménages. Voilà, donc comme à l'habitude, nous sommes ouverts à vos discussions. S'il y a des camarades, des syndicats ou des associations qui souhaitent compléter.
Ben moi, je veux bien compléter par plus le ressenti de terrain. Alors, tous ces chiffres-là, nous, on les constate, où c'est un ressentiment sur le terrain. Pour rappel, le MNCP, c'est 40 associations en France qui reçoivent en tout 100 000 passages de chômeurs et de précaires par an. Et bon, on est dans une situation qu'on n'a jamais vécue pratiquement. Alors, il y a l'aspect radiation qui nous prend énormément de temps. Une radiation croissante, flagrante, sur un constat de terrain. Mais on s'aperçoit aussi de plus en plus de personnes qu'on reçoit qui sont en situation de surendettement, qui n'ont plus les moyens de se loger, qui sont dans de grandes difficultés. Ça, c'est quelque chose qu'on voit croissant depuis 20 ans. On existe depuis plus de 20 ans. C'est des choses nouvelles pour nous. On a à gérer des choses qui nous semblent nouvelles. Bon, le fort sentiment d'injustice, hein, on montre beaucoup du doigt les chômeurs, en particulier dans cette campagne électorale. Ça, c'est très mal vécu par beaucoup de chômeurs, et cette pression, pour la plupart des gens, ils l'estiment injustifiée, dans le sens où le manque d'emploi n'est pas du fait des chômeurs. Le manque d'emploi est là, la plupart des chômeurs aimeraient se lever tôt, aimeraient aller travailler, mais il se trouve qu'il y a très peu d'emplois disponibles, et d'être montré du doigt à ce point-là, c'est très mal vécu par beaucoup de chômeurs et de précaires, et ce qui est très légitime de notre point de vue. On estime aussi que refuser une offre, c'est un droit, parce qu'on nous dit aujourd'hui, à la troisième offre, on doit l'accepter, voire à la deuxième offre. Pour rappel, il y a des gens qui ont investi une partie de leur vie sur des formations, sur des études. Ils attendent un retour sur investissement, ce qui semble logique. Et on leur dit aujourd'hui, la deuxième offre, la troisième offre, vous devez la prendre. Moi, j'ai eu un cas concret, une demande qu'on avait fait auprès de M. Charpie à la direction régionale de la NPE, nationale de la NPE, qui nous disait, si vous êtes chômeur de courte durée, 5-6 mois, effectivement, vous pouvez refuser un emploi. Par contre, si vous y êtes depuis 2 ans, vous devez l'accepter. Alors, sur un cursus où on a pu commencer plâtrier, maçon et finir travailleur social, on peut vous redemander de retourner à la case de départ. Donc, c'est quand même quelque chose qui est plutôt assez scandaleux. Et c'est normal que des gens refusent certains emplois qui ne correspondent pas à leur investissement, à la façon dont ils ont progressé dans leur carrière sur toute une vie. Dire que les minima sociaux, c'est de notre fenêtre, nous, c'est une ultime solution. Les gens, ils vont pas par plaisir sur les minima sociaux. Tous les chômeurs qui basculent vers les minima sociaux, c'est parce que c'est l'ultime solution. C'est pas un choix. Vivre avec 460 euros, c'est pas un choix. On peut pas le voir de cette façon-là. Voilà pour l'essentiel, hein, mais le constat d'une augmentation de la pauvreté, tout, nous, on le constate tous les jours sur le terrain.
Si vous avez des questions.
Comment est-ce que vous mesurez la forme de l'appareil de justice ?
Comment on mesure la contribution de la variable justice à l'évolution de l'indicateur, oui. Je sais pas, tu veux répondre à ça
Dans la mécanique du, donc la justice, ça pèse pour un certain poids.
Hein, 12,5
grosso modo, 1/8 pour la limite.
Ouais, 12,5
ça doit faire ça. Hein, 1/8 dans le BIP 40. Donc il y a un certain nombre d'indicateurs. Comme dans toute rubrique ou domaine des inégalités du BIP 40, on a un certain nombre d'indicateurs derrière. Donc je ne les ai pas tous énumérés. J'ai parlé du taux d'incarcération, du taux de reconnaissance des réfugiés. Il y a aussi la part des peines supérieures à un certain seuil, etc. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tout ça sur le site du BIP 40, bip40.org. Donc on suit ces séries statistiques. Ensuite, on aboutit à un score, si vous voulez, en termes de justice, hein, qui évolue d'année en année. Et on pondère ce score. Et c'est le score pondéré par ce que pèse la justice, c'est-à-dire 1/8, qui permet de mis en regard de la variation totale du BIP 40, qui nous donne quelle est la contribution, finalement, de ces différents indicateurs à l'évolution du BIP 40. Je ne sais pas si j'étais très clair, si j'ai pas été, je peux recommencer.
On va en résumer, l'indicateur de justice de l'indice BIP 40 augmente de 10% sur une année, alors que la justice pèse pour 1/8 dans l'ensemble de l'indice, eh bien ça va faire augmenter l'indice de 0,8.
Donc c'est le compte.
Qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce que c'est une justice inégale? Par exemple.
Oui, alors, donc là, c'est un baromètre des inégalités et de la pauvreté. Donc, c'est un baromètre qui juxtapose des indicateurs dont nous avons jugé qu'ils étaient pertinents pour refléter, on va dire, l'état de la cohésion sociale dans le pays. Donc on va prendre par exemple le taux d'incarcération, c'est la proportion de personnes dans la population qui sont en prison. Il nous semble que c'est un indicateur qui reflète l'état de cohésion ou de décohésion, disons, d'une société. Plus une société est amenée à emprisonner une part croissante de sa population pour s'en protéger, plus, selon nous, ça signifie que la cohésion sociale est en déliquescence. Alors, on sait bien, par exemple, que les États-Unis sont le pays du monde où la population carcérale représente la plus forte proportion de la population. De nombreux travaux ont montré qu'il y avait une criminalisation de la pauvreté et que de plus en plus on enfermait les pauvres avec les politiques de tolérance zéro et toutes les politiques de répression, de renforcement de la répression qui sont manifestement à l'ordre du jour aussi en France, sont des politiques pour nous de criminalisation de la pauvreté et qui contribuent à la déliquescence du lien social.
C'est quand même les difficultés de recrutement qui existent dans un secteur et l'existence, le chiffre revient régulièrement, de 500 000 emplois vacants. Et parfois, vous avez dans un même bassin d'emploi un fort taux de chômage et de fortes tensions sur certains métiers. Pour beaucoup de gens, c'est vécu effectivement comme une espèce d'insulte existentielle au fait qu'eux, ils vont quand même travailler. Est-ce que vous répondez sur ces 500 000
A priori, il me semble qu'un des problèmes principaux, c'est l'adéquation entre les formations et les emplois vacants. C'est lié en grande partie à ça. Il y a aussi une forte dévalorisation des travaux manuels longtemps, où c'était la voie de garage, le travail manuel. Et aujourd'hui, on manque de travailleurs manuels, visiblement. Donc, moi je mettrais ça en perspective, la dévalorisation du travail manuel depuis X temps, le manque d'adéquation entre les formations et l'emploi existant. Et on nous parle souvent de ce chiffre-là, mais qui est un peu nébuleux, parce que, une fois, on était auditionnés sur la question justement de cette question-là. On a été rapidement voir sur le site ANPE. On a trouvé 5 annonces pour du travail en restauration ou en bar et 3 annonces pour du travail en bâtiment sur Paris. 8 annonces sur la NPE Île-de-France. On nous parle de 300 000, de 500 000 emplois vacants. Pourquoi pas, mais j'aimerais savoir comment c'est calculé, comment c'est posé. C'est visiblement une enquête qui est faite auprès des patrons ou des employeurs qui pensent pouvoir embaucher dans l'année. C'est quelque chose qui ne nous semble pas très fiable. Reste à voir, mais...
Pierre ?
Oui, on peut prolonger cela. D'abord, 500 000, c'est manifestement exagéré. Enfin bon, les estimations raisonnables, autant qu'on puisse le dire, de ces choses-là, qui ont été faites publiées dans un certain nombre de rapports, c'est plutôt entre 200 et 300 000, première chose. Deuxième chose, c'est pas un phénomène nouveau. Il faut quand même rappeler que des vacances d'emploi, il y en a eu depuis très longtemps. C'est un autre point, je pense, qu'il faut rappeler. Il faut aussi dire que c'est la même chose dans les autres pays. Le taux de vacances d'emploi, il est même plutôt en France plus faible que dans un certain nombre d'autres pays. Alors, ça serait un peu compliqué de se livrer à une comparaison multidimensionnelle. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, je veux vous l'avouer, sur est-ce qu'il y a correspondance entre le taux de vacances d'emploi et le taux de chômage. Mais ce que j'ai en tête, c'est que il y a des pays où le taux de chômage est faible et où les vacances d'emploi sont élevées et réciproquement. Enfin, il n'y a pas de lien mécanique. Donc je crois qu'il faut d'abord relativiser cette question-là. D'une part, encore une fois, parce qu'il y a toujours eu, c'est assez naturel qu'il y ait un certain nombre de frictions. D'autre part, parce que comme l'a montré d'ailleurs un récent rapport du CAS, il y a effectivement des métiers qui ont des difficultés de recrutement, mais qui sont pour des raisons relativement objectives. C'est-à-dire que des métiers qui sont fuis par les gens parce que les conditions de travail, les conditions de rémunération ne sont pas satisfaisantes. Ce qu'on a dit dans la précédente note du collectif sur la précarité, le développement d'emplois à bas salaire, le développement d'emplois insoutenables, c'est précisément que, au-delà du chômage, ou à côté plutôt du chômage, se développaient des formes d'emploi tout à fait dégradées, qui ne correspondent pas à ce que souhaitent les gens, qui les occupent éventuellement de façon temporaire, épisodique, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Si leur indemnisation se termine et qu'il faut bien vivre et qu'on n'a pas accès aux minima sociaux, qui restent, encore une fois, je le redis, il faut le souligner, le RMI, c'est un des niveaux les plus faibles en comparaison des pays européens, en France. Et je rappelle que les jeunes sont exclus de ce RMI, sauf s'ils sont en charge d'enfants. Enfin, grosso modo, avant 25 ans, on n'a pas le RMI. Donc, on n'a pas d'autre choix, éventuellement, que de prendre ces bouts d'emploi. Voilà, je pense que la question des emplois vacants, c'est pas la question majeure aujourd'hui quand on la rapporte aussi à l'ensemble des emplois.
Oui, 300 000 emplois vacants par rapport à 4 millions de personnes inscrites à la NPE. Bon, c'est voilà, les ordres de grandeur sont clairs. Ça n'est vraiment pas le problème. Catherine, Sud à NPE.
Oui, pour compléter sur cette question-là, il faut savoir aussi que nombre d'offres d'emploi en intérim que l'ANPE enregistre ne correspondent pas forcément à des vraies offres d'emploi. C'est-à-dire qu'il faut savoir ça, c'est que les boîtes d'intérim se servent de l'ANPE pour alimenter leurs fichiers. Donc ce sont des offres d'emploi qui ne correspondent pas à des postes. Donc ça aussi, ça fait partie des fameux chiffres annoncés. Donc on voit bien que ces chiffres sont relativement bidons. C'est-à-dire que faut les décortiquer pour comprendre à quel point ça ne correspond pas du tout à des réalités de postes offerts aux demandeurs d'emploi.
D'autres questions, oui. Allez-y.
Là, on montrait que 1040 augmente en France depuis 25 ans. Est-ce qu'avec ce même type d'indicateur à l'échelle européenne, est-ce que vous traitez par exemple une série statistique qui pourrait avoir des comparaisons? Et qu'est-ce qui se passe à peu près dans les autres pays? Est-ce qu'il y a des cas où ça baisse?
Alors, il n'y a pas un indicateur aussi international de la CNUSED qui a une méthodologie un peu comparable, c'est-à-dire apparemment mélanger, agréger des chiffres ou des situations qui peuvent être très différentes.
C'est un indicateur de la CNUSED,
du chômage, des revenus, des écoles, de la santé. Est-ce qu'il n'y a pas un indicateur, me semble-t-il, qui existe au niveau international qui a une méthode un peu comparable au vôtre?
Nous, on n'a pas fait de travaux sur des données internationales. On a déjà du mal à le faire sur la France. Il y a une initiative semblable en Belgique. Je sais qu'il y a eu une association aussi qui a fait un calcul d'un indicateur du même type que le BIP 40 en Belgique. Sinon, il y a toute une littérature internationale qui s'est développée depuis plusieurs années autour de la question des nouveaux indicateurs de richesse, les indicateurs alternatifs au PIB. Donc nous, notre initiative s'inscrit dans ce courant-là. Hein, l'idée que les indicateurs classiques comme le PIB sont tout à fait insuffisants à décrire l'état du bien-être social, ou dans notre cas, le mal-être social. Hein. Donc ce que montre la plupart des tentatives de ce genre, notamment au Canada, aux États-Unis, c'est que à partir du milieu des années 70, alors que le PIB continuait à augmenter de façon un peu moins rapide, mais quand même constante, les indicateurs de santé sociale, par exemple, construits par une équipe américaine, n'augmentent pratiquement plus, donc stagnent. Donc il y a une déconnexion croissante entre, disons, la richesse marchande produite et qui continue à augmenter, et le niveau de bien-être social qui, lui, n'augmente plus, voire diminue dans certains pays. Et c'est lié, effectivement, à la question des inégalités de revenus qui se sont développées beaucoup, notamment dans les pays anglo-saxons, la question du chômage de longue durée, la question des taux d'incarcération, des taux de suicide des jeunes, toute une série d'indicateurs qui sont pris en compte dans ces indices et qui montrent un petit peu le même genre de phénomène que ce que nous avons pu montrer pour le cas de la France. Je vous renvoie à l'excellent livre de Jean Gadret et Florence Janicatrice qui s'appelle « Les nouveaux indicateurs de richesse » qui est sorti la collection Repères à la découverte, qui fait un très bon point sur, qui fait un très bon panorama de cette littérature internationale et des conclusions auxquelles elle aboutit, que je vous ai très, très brièvement résumé là.
Juste pour compléter et pour relier à notre démarche du collectif sur les autres chiffres, hein, depuis une quinzaine d'années, il y a des réflexions. Alors, on a fait part des réflexions des statisticiens du travail le mois dernier sur les concepts de sous-emploi, d'emploi inadéquat. Il y a le même type de réflexion, on pourrait dire, sur les indicateurs de richesse, de pauvreté, depuis 15 ans. La démarche du collectif, ça a été d'essayer de rendre opérationnels ces concepts, dont tout le monde reconnaît qu'ils sont aujourd'hui nécessaires pour traduire un certain nombre de réalités sociales, en matière de chômage, en matière d'inégalité sociale. On en est un peu au début. Hein, et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est très difficile d'avoir des comparaisons internationales. En revanche, il y a eu des tentatives, par exemple dans la région de Lilloise, de régionaliser le BIP 40, c'est-à-dire de construire un indicateur de BIP 40 qui reprenne des données de cette région. Mais ce sont des tentatives un peu expérimentales. C'est-à-dire qu'on commence à le faire. Ça suppose la collaboration quand même du système statistique, parce que avoir des données nationales, c'est une chose. Décliner l'ensemble des indicateurs au niveau de la région, c'est une autre, parce que les enquêtes ne sont pas forcément... On ne peut pas toujours avoir les données régionales parce qu'il y a trop d'incertitudes. Par ailleurs, il y a une autre réflexion, c'est-à-dire qu'au niveau régional, il y a des indicateurs qui sont peut-être moins pertinents qu'au niveau national. Enfin, le problème de la comparaison internationale pose aussi le problème de la pertinence des indicateurs. Et il y a certaines réalités sociales qui sont pertinentes dans certaines régions, dans certains pays, et qui vont l'être moins ailleurs. Donc il y a toute une réflexion, et c'est en fait ces éléments-là que des indicateurs comme le BIP 40 permettent de mettre en débat. La démarche du BIP 40, c'est à la fois d'alerter évidemment sur la dégradation du tissu social, mais aussi de mettre en débat toutes ces questions, c'est-à-dire qu'est-ce qui aujourd'hui change dans la société, et donc est-ce qu'il est pertinent que le système statistique puisse suivre pour, encore une fois, à la fois avoir un diagnostic sur ce qui se passe et essayer d'y remédier.
Alors, je dois ajouter quand même que le système statistique public commence à bouger sur ces questions-là, puisque le CNIS, donc, suite à la controverse que nous avons initiée en 2004 sur la mesure de la pauvreté, le Conseil national de l'information statistique a réuni un groupe de travail qui a travaillé pendant toute l'année 2006 sous la présidence de Jacques Fraissinet, l'ancien directeur de l'IRES. Ce groupe de travail a remis un rapport en décembre 2006, rapport d'ailleurs qui a été présenté par Jacques Fraissinet le 8 mars à l'Assemblée du CNIS, où l'INSEE a également évoqué la question du taux de chômage. Et dans le rapport de Jacques Fraissinet, il y a toute une série de propositions très intéressantes qui sont faites pour remédier aux insuffisances du système statistique public sur la question de la mesure des inégalités et de la pauvreté. Donc ce rapport constitue pour nous une avancée tout à fait intéressante. Il propose notamment la mise en place d'une publication annuelle du système statistique public, donc sous la responsabilité de l'INSEE, sur le thème des inégalités. Ça, pour nous, ce serait un grand pas en avant, parce que ce qu'on dénonce depuis des années, c'est la disparition de la problématique des inégalités dans les publications du système statistique officiel. Hein. Donc nous enregistrons avec beaucoup de satisfaction cette légère réorientation, disons, de l'INSEE sur ces questions-là. Maintenant, on attend de voir concrètement qu'est-ce que l'INSEE va produire. Mais en tout cas, il y a eu une avancée grâce à ce rapport niveau de vie et inégalité.
Non.
Il y a un observatoire de la pauvreté. Quand il a été créé en 1997, le réseau d'alerte aux inégalités a protesté justement parce que c'était un observatoire de la pauvreté, donc on allait regarder les pauvres à la loupe, et sans considérer la question des inégalités, qui est une question plus large, parce qu'évidemment la pauvreté, c'est le résultat d'un fonctionnement d'ensemble de la société où les inégalités tendent à se développer. Donc focaliser uniquement l'attention sur les pauvres, ça nous semblait pas suffisant. Alors l'Observatoire de la pauvreté a fait des travaux tout à fait intéressants, mais n'a pas du tout pu prendre en compte la question des inégalités. L'appel à la grève de demain, non, c'est uniquement le... C'est uniquement le... oui, l'adresse.
Oui. C'est l'intersyndicale...
L'intersyndicale du ministère de l'Emploi.
Sachant qu'il y aura un mouvement, comme la semaine dernière...
Il y a un rassemblement.
Enfin, un rassemblement, je pense que ce sera la même heure, il y aura midi, devant le dépôt de l'adresse, qui lui concernera l'intersyndicale des trois administrations.
Il y a l'INSEE,
l'ANPE et
principalement l'ADARES qui sont les plus mobilisés actuellement sur le sujet. D'autres questions ? Oui.
Comment l'INSEE arrive à la pauvreté ? Donc c'est la question du taux de pauvreté. Vas-y, Pierre. Oui, c'était précisément l'objet de la controverse qu'on avait lancée en 2004 au RAI par rapport aux chiffres de la pauvreté, parce que il faut savoir que dans les chiffres de la pauvreté de l'INSEE sont calculés à partir d'enquêtes auprès des ménages et d'enquêtes qui reposent sur les revenus fiscaux des ménages. Or il se trouve que la fiscalité est totalement dérogatoire pour la plupart des revenus de la propriété, parce qu'ils sont soit exonérés, soit soumis à un prélèvement libératoire, donc en tout cas en dehors du champ de l'impôt progressif, ce qui fait que dans les enquêtes, enfin dans les revenus fiscaux, dans les déclarations fiscales des ménages, on ne récupère qu'une toute petite partie de ces revenus de la propriété, environ 20%. Or, le problème, c'est que depuis la fin des années 70, la masse de ces revenus a complètement explosé. Elle a augmenté 3 fois plus vite que l'ensemble des autres revenus. En cumulé sur 20 ans, ça fait énorme. Et donc, on se dit, si les enquêtes fiscales gomment, en quelque sorte, ces revenus de la propriété qui augmentent beaucoup plus rapidement que les autres revenus, ça biaise quand même la mesure des inégalités et de la pauvreté. Hein, puisqu'on sait, par ailleurs, que les revenus de la propriété, ils se concentrent de façon tout à fait significative sur un certain nombre de ménages qui sont plutôt dans le haut de la distribution. Donc c'était la raison pour laquelle on avait alerté sur les déficiences de cet indicateur, déficiences qui ont d'ailleurs été reconnues dans le rapport dont parlait Thomas, et c'est une priorité du système statistique que de la combler. Bon, on attend, on on espère que ça sera fait le plus vite possible. Donc voilà l'origine, si vous voulez, du problème posé par cet indicateur, principalement parce qu'il occulte des revenus de la propriété qui, encore une fois, ont explosé et qui changent significativement la donne, à la fois en matière d'inégalité et de pauvreté.
Oui, le rapport Fraissinet, dont je parlais tout à l'heure, dit bien que c'est la grosse lacune du système d'observation de la pauvreté aujourd'hui, la non prise en compte des revenus du patrimoine, et donne à l'INSEE comme priorité de remédier à cette situation. Bien, ben on vous donne rendez-vous alors le 29 mai pour les états généraux des chiffres du chômage et de la précarité.